Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On va commencer par un petit temps de méditation, comme d'habitude. Donc, je rappelle brièvement les points pour la méditation de Shiné, le calme mental. Donc, toujours, on commence par mettre le corps en méditation avec une posture correcte, c'est-à-dire le dos bien droit, le dos bien droit, on rentre légèrement le menton. On doit sentir que si la colonne vertébrale est correctement empilée, ça devrait pencher ni d'un côté ou de l'autre. Ça devrait tenir tout seul, sans qu'il y ait besoin de faire d'efforts. Donc on doit trouver un peu la liberté au niveau du bassin, de façon à trouver la juste cambrure. Et tout le reste du corps doit être détendu. Donc on prend un moment pour faire un petit scanner corporel, voir s'il y a des tensions dans le corps. Donc souvent au niveau des épaules, on laisse les épaules se détendre. Toutes les petites crispations qu'on sent au niveau de la nuque, des muscles du visage, la bouche, les sourcils. On détend tout ça, on relaxe tout ça. On met vraiment le corps au repos. L'idéal dans notre transition, c'est d'apprendre à méditer les yeux ouverts, c'est-à-dire on va pas chercher à se couper de quoi que ce soit, on reste en contact avec tout ce qui nous entoure, y compris par la vue. Donc on dit que le regard devrait être à l'oblique, sans aucune tension, très naturel. C'est-à-dire qu'on voit, mais on ne regarde pas particulièrement quelque chose, on ne fixe pas quelque chose en particulier. On est conscient du champ visuel. Le regard reste très souple, très mobile. Aucune tension. Voilà, naturel. Alors, et puis on laisse le corps faire ce qu'il sait faire de mieux, être un corps. Il fait ça très bien tout seul. Il n'a pas besoin de nous pour respirer. On le laisse bâiller s'il a envie de bâiller. On le laisse gargouiller s'il a envie de gargouiller. On le laisse tranquille. Et au niveau de l'esprit, on peut utiliser cette instruction qui est très profonde, en fait. Les textes disent « Soyez comme celui qui a eu une journée bien remplie. Il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Il peut enfin rentrer chez lui, se poser dans son fauteuil et laisser tomber toute préoccupation. La véritable méditation, c'est d'apprendre à se détendre. Quel que soit ce qui apparaît à la conscience, on apprend à se détendre, à rester très simple. C'est un état de repos dans l'attention. On se repose dans l'attention. continue à percevoir tout ce qui se passe. On regarde les pensées, mais on les laisse passer. On apprend à se détendre, on apprend à être doux avec soi-même, c'est-à-dire s'il y a une préoccupation, on apprend à lâcher prise. S'il y a une tension, on apprend à se détendre. Si on n'y arrive pas, c'est ok. On apprend aussi à se détendre par rapport à ça. Quoi qu'il se passe comme expérience dans l'esprit, on apprend à être ok. À laisser ce qui est être. On se met absolument aucune pression. On peut s'autoriser à ne rien exiger de nous pendant la méditation. Alors je vais vous demander beaucoup d'indulgence pour l'enseignement de ce soir parce que c'est un enseignement que j'ai déjà reçu, que j'ai étudié, mais c'est un peu la première fois, enfin voilà, que je me lance là-dessus. Donc comme toujours, hein, s'il y a des termes, enfin voilà, qui vous interpellent, sur lesquels vous voulez qu'on revienne, n'hésitez pas à me dire. Si je suis pas clair. C'est un enseignement donc sur la bodhicitta ultime, donc qui est la suite de ce qu'on a vu dans l'entraînement de l'esprit. La dernière fois à Nancy, on avait vu les quatre idées fondamentales, je crois. On avait parlé de la précieuse existence humaine, de l'impermanence, le karma et les défauts du samsara. Et ensuite, le texte de l'entraînement de l'esprit va parler de la bodhicitta. Alors, dans l'entraînement de l'esprit, il y a deux corps principaux. On va parler de la bodhicitta ultime et la bodhicitta relative. Qu'est-ce que la bodhicitta? La bodhicitta, donc, c'est traduit par l'esprit d'éveil. Et c'est ça qu'il nous faut réaliser, la bodhicitta. Et la bodhicitta, elle a trois aspects. Elle a un aspect qui est doux, qui est très tendre, qu'on va appeler la compassion, qui est très chaleureux. Elle a un aspect qui est très clair, très précis, qu'on va appeler la connaissance ou prajna. Et puis, elle a un aspect qui est ouverture, espace, qu'on va appeler shunyata, la vacuité. Et quand on dit la vacuité, ça peut paraître très froid, très austère, la vacuité. Mais en fait, on parle de trois aspects d'une même chose. Quand on parle de la vacuité, elle a aussi un aspect, justement, qui est la compassion. Vacuité, compassion, on va parler de trois aspects d'une même chose, qu'on appelle la bodhicitta. Et en l'occurrence, on va parler de bodhicitta ultime, bodhicitta relative. Bodhicitta relative, c'est plus facile à appréhender. La bodhicitta ultime, c'est cette notion d'espace. Cette notion de que à aucun moment les choses ne sont aussi solides qu'elles paraissent. Même dans les scénarios les plus coriaces, même dans les situations les plus prenantes, l'objectif de la pratique de la bodhicitta ultime, c'est de réaliser, de comprendre, de voir qu'en fait tout se laisse travailler. Qu'il y a toujours de l'espace, que les choses ne sont pas aussi solides qu'elles paraissent. Et c'est à ça qu'invite le travail, qu'on va voir avec cette première partie de texte, où il y a, je crois, 4 ou 5 slogans, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, préceptes, on va dire, dans l'entraînement de l'esprit. Et le premier des préceptes, c'est de voir toute chose comme un rêve. Voyez toute chose comme un rêve. Voyez tous les phénomènes comme un rêve. Et donc voilà, c'est une invitation à voir que tout se laisse travailler. Que toutes les choses ne sont pas aussi solides que ça. voir toute chose comme un rêve. Donc qu'est-ce que nous dit ce slogan? Il nous dit qu'en fait, dans un rêve, les choses nous apparaissent très nettes, très vives, et pourtant on se rend compte que quand on se réveille, il n'y a pas eu un atome d'existence, que tout ça, ça s'est déroulé dans notre esprit, qu'on en a fait toute une histoire, et puis que finalement, au moment où on se réveille, ça se dégonfle. Et là, on nous dit, ben voilà, de voir toute chose, tous les phénomènes comme un rêve. C'est une invitation, en fait, à observer que tout ce qui nous arrive, finalement, ce qui nous en reste, c'est peut se résumer à des souvenirs fugaces. Voilà, on peut penser à... On peut voir que... à tous ces matins qui se répètent, à tous ces repas qui se répètent, à toutes les heures qu'on a passées auprès de nos amis, notre famille, tous ces allers-retours qu'on fait au travail, travail à la maison, de la maison au travail, de voir qu'on rejoue beaucoup de choses, et finalement ce qui nous en reste, ça peut se résumer à des souvenirs, à des bulles. On parle beaucoup de, voilà, on utilise beaucoup l'image de bulles d'eau à la surface de l'eau. Ça apparaît, on ne sait pas d'où ça vient, ça apparaît très concret, et puis ça disparaît. Toutes ces situations qu'on a vécues qui font naître beaucoup de sentiments, d'émotions, de la tristesse, de la joie, de l'anxiété, etc. Et finalement, il en reste que des souvenirs. Même il y a quelques instants, j'étais dans la rue. C'est terminé, c'est passé à autre chose. Ce que je viens de dire, c'est pareil, passe à autre chose. On s'entraîne à voir que les choses vont, qu'elles demeurent un moment, et puis qu'elles partent. Ça apparaît, ça disparaît. Et donc c'est une invitation à ne pas en faire toute une histoire. C'est-à-dire que à voir que toutes les expériences très plaisantes qu'on a pu vivre, même les expériences les plus extraordinaires, les plus même des grandes expériences de béatitude, etc., ça passe. Il n'en reste qu'un souvenir. Que les expériences très pénibles qu'on a vécues, à moins qu'on l'évoque, ça passe. C'est plus là. Et on nous invite à faire ça en méditation. Par de la méditation assise, à observer toutes ces pensées. Ces pensées qui naissent dans l'esprit. Pourtant, il ne se passe rien, on est là, assis tranquillement. Et puis, il y a beaucoup de choses qui nous effleurent. Voilà, il ne se passe rien, mais on ressent plein de choses. Des pensées, des sensations, des perceptions. Et puis, ces pensées, on voit qu'on se raconte des choses, qu'on se parle à nous-mêmes, qu'on crée une identité à partir de ça, à partir de ce que racontent les pensées, ce qu'on pense être un problème, ce qu'on pense être une satisfaction, et puis tous les scénarios qui se jouent. Et on s'entraîne à observer ça, comme si c'était des bulles d'eau, comme si c'était un rêve. Ça apparaît comme ça, et puis ça disparaît. Si on ne s'y accroche pas, ça passe. Et de voir qu'au fond, ce qu'on construit dans un rêve, on vit la même chose dans notre réalité en mode veille. Alors le slogan, il ne nous dit pas « c'est comme ça et pas autrement ». Il ne nous dit pas « les choses sont comme un rêve ». Il faut plutôt le prendre comme une invitation à se dire « et si tout cela n'était qu'un rêve ?». C'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Ce n'est pas quelque chose à ruminer intellectuellement. Là, le slogan, la façon dont il faut prendre cette instruction, c'est tout simplement un exercice qui s'adresse à des débutants. Ce n'est pas du tout une instruction qui est profonde, c'est juste une invitation à fonctionner, à vivre la vie de tous les jours en se disant, en créant des brèches, en se disant « et si tout cela n'était qu'un rêve ?».
et voir qu'est-ce que ça provoque dans l'esprit. Le fait même de pouvoir se poser la question, c'est déjà que les choses ne sont pas si solides. Si on arrive ne serait-ce qu'à se dire, avoir un doute, et si tout cela n'était qu'un rêve. Parce qu'au fond, on voit bien que dans le rêve, on peut y croire dur comme fer. Même si on sait qu'un rêve n'a aucune existence réelle, ça se déroule au sein de notre esprit. N'empêche que c'est très rare qu'on puisse prendre conscience qu'on est en train de rêver. Parce qu'on adhère. Parce qu'il se joue des choses très très vives, très très nettes. Et pourtant, on n'a pas d'indice. Et donc c'est ce qui peut nous permettre, voilà, dans la vie de tous les jours, d'interpeller en disant « Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» Et de voir qu'est-ce que ça provoque, c'est surtout ça, qu'est-ce que ça provoque dans mon esprit quand je dis ça. Quelle brèche ça provoque. Et de voir qu'il y a déjà un sentiment d'ouverture, ne serait-ce que parce qu'il y a un doute. On se demande si c'est vraiment vrai tout ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi solide que ça en a l'air? Et c'est cette pratique dont on dit qui nous introduit à la bodhicitta ultime. La bodhicitta ultime, c'est-à-dire qui va nous permettre de pouvoir nous détendre, de nous autoriser à nous détendre. Pourquoi ? Parce que on voit que finalement, tout vient, tout passe. Et dans le tout vient, tout passe, l'idée, c'est pas que rien n'existe. Faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quand on dit tout est semblable au rêve, ça veut pas dire donc rien n'existe, donc il n'y a rien. Non, on voit bien que c'est très vif, on voit bien que c'est très net. Il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent, et puis on réagit à ça. Ça fait naître des sentiments, ça fait naître des pensées, ça arrive vers nous. Et puis l'idée, c'est que on peut apprendre à se détendre, c'est-à-dire à ne pas systématiquement vouloir renvoyer la balle. Il y a un truc qui arrive, ça paraît menaçant, ça fait bip bip, et de manière très automatique, par le fait de solidifier les choses, tout de suite on est amené à réagir, à se défendre, à se débattre, etc. L'idée, c'est de voir que ça se laisse travailler. Au fond, il n'y a pas lieu d'en faire tout un plat. Quand on dit ça, il n'y a pas lieu d'en faire tout un plat, ça ne veut pas dire « détendez-vous ». Il ne faut pas en faire tout un plat. C'est plutôt une façon de voir qui va nous permettre de comprendre qu'il n'y a pas lieu d'en faire tout un plat, qu'on peut se détendre. Par exemple, on peut avoir fait l'expérience de scénarios très coriaces, voilà, qui nous arrivent. Et puis, à un moment donné, tout bonnement, alors que ce scénario nous fait vivre le sentiment d'être vaincu, le sentiment d'être, blessé, et puis à un moment donné, on laisse tomber, tout bonnement, on laisse tomber, et puis la vie continue. Un peu comme si rien ne s'était passé tout d'un coup, sans raison particulière, on laisse tomber. Et puis ça continue, et puis ça passe à autre chose, comme si c'était rien passé. Il y a un peu, c'est cette idée-là, quoi. S'ouvrir au fait que même les scénarios les plus vifs, les plus nets, ça passe à autre chose. Ça nous apprend à ne pas en faire à plat quand il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Pas en faire à plat, ça ne veut pas dire ne pas en jouir, ça ne veut pas dire que c'est pas là, ça ne veut pas dire que c'est... On en jouit pleinement, mais en même temps, on ne va pas chercher particulièrement à s'agripper à ça, parce qu'on sait que c'est semblable au rêve. Et donc, si c'est semblable au rêve, ça finit par passer à autre chose, par se transformer. Et puis pareil, on ne va pas en faire tout en plat quand il y a une circonstance pénible qui arrive, que ça paraît très menaçant. Au fond, il y a encore de l'espace. Il y a encore de l'espace pour se détendre. Il y a encore de l'espace pour vivre ça sans... quoi. J'insiste que c'est pas que il s'agit pas de prendre le slogan comme une injonction en se disant ah oui, mais alors moi j'arrive pas à me détendre. J'ai écouté ça, j'ai compris, mais quand je le mets en pratique, j'arrive pas à me détendre, au contraire, etc. Donc la méditation, c'est pas pour moi, peut-être je devrais laisser tomber, je suis pas encore prêt pour ça, pas du tout. C'est vraiment une instruction qui s'adresse d'emblée, dès le départ, dans l'entraînement de l'esprit, qui s'adresse vraiment même à quelqu'un qui débute, juste un exercice, et si tout cela n'était qu'un rêve. Et il y avait un maître qui disait, ça peut même se résumer à le faire 3 fois par jour. Juste se dire 3 fois par jour, et si tout cela n'était qu'un rêve. Voilà, et puis même en faisant semblant, même si on n'y croit pas vraiment, eh ben on fait cet exercice. Et si tout cela n'était qu'un rêve, on se pince. Et puis on regarde ce qui se passe en termes d'expérience. Voir cette brèche, voir que rien que le fait de se poser la question, c'est que c'est pas aussi solide que ça en a l'air. Et on regarde les pensées comme ça. On regarde toutes les histoires qu'on se raconte. On se regarde se parler à soi-même. Et puis construire des choses à partir de rien. Il ne se passe rien, on est assis, on est dans le... Voilà. Et pourtant, il y a plein de choses qui se jouent. Et puis, voilà. De voir que tout part de là. Tout part de là. Et la discipline, ce qu'on appelle la discipline, c'est de se détendre. C'est de détecter quand est-ce que les choses deviennent trop solides. Et donc, ça crée une tension dans l'esprit, voilà. Ne serait-ce que sur le coussin, c'est vraiment... Là, on parle d'une instruction qui, finalement, on est encore dans la pratique sur le coussin. Et ensuite, on extrapole sur l'activité, mais de voir ça. On est tranquille sur le coussin, et ce qui va nous faire voir qu'il y a un scénario très intense qui se joue, c'est qu'il va y avoir une tension dans l'esprit. Ça va se traduire par une tension. Tension dans l'esprit qui va se traduire peut-être par une tension dans le corps. On va voir, peut-être les lèvres vont se pincer, les sourcils vont se froncer, voilà. Et là, la discipline, c'est de se détendre. C'est ça la discipline, la véritable discipline du méditant, c'est la détente. C'est, je vois une tension, j'apprends à laisser tomber. Je peux laisser tomber. Je m'autorise à laisser tomber. M'autorise à voir que c'est juste une pensée et que tout naît à partir de là. Quelque chose qui apparaît. Et si je me tais dedans, ça se transforme. Et quand on fait ça, donc le précepte suivant, c'est dit examine la conscience non née. Examine, ça ne veut pas dire analyser, c'est observe, examine, c'est observe mais sans conclure. Examine la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? C'est malgré qu'il ne se passe rien sur notre coussin, il y a des choses qui apparaissent. Et quand on dit examine la conscience non née, donc c'est pareil, hein, c'est une instruction qu'il ne faut pas, même si les mots ça paraît un peu abstrait, ça ne l'est pas du tout. Concrètement, c'est très simple. C'est, on est là sur le coussin, on observe les pensées, on apprend à se détendre, et ensuite, plutôt que se porter sur les pensées elles-mêmes, quand on commence à, voilà, à donner de l'espace à tout ça, c'est s'entraîner, non pas à observer les phénomènes, mais tout le processus. C'est-à-dire, plutôt que de regarder pensée, 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 on observe le flot des pensées, de voir ça comme un espèce de flot continu, comme des bulles. C'est des bulles qui s'élèvent. Là, on voit un peu, je pourrais prendre l'image d'un verre de Perrier, d'eau gazeuse. Si on regarde les bulles qui s'élèvent, c'est difficile de voir l'instant de naissance d'une bulle. Et puis ça apparaît, ça disparaît à la surface, puis il y en a une autre qui apparaît, etc. Et en fait, le début et la fin, très difficile à... Il y a une image qui est peut-être même plus parlante qu'on utilise, c'est que de la même façon qu'il est difficile de voir le début d'une pensée, le milieu d'une pensée ou la fin d'une pensée, on prend l'image de voir que c'est impossible de voir le moment où l'eau se change en vapeur sous l'effet de la chaleur. On voit l'eau, on voit la vapeur, mais on ne voit pas le moment exact, précis, le moment quand l'eau se change en vapeur. Et c'est un peu de cette façon qu'on nous invite à observer notre méditation, ces pensées, pas tant les pensées, mais tout le processus, de voir que ces pensées, si on les observe, on n'arrive pas à trouver le début de la pensée. On n'arrive pas à trouver le milieu, on n'arrive pas à voir la fin. Dès qu'on isole pensée, c'est déjà autre chose, ça s'est déjà transformé, ça prend déjà une autre forme. C'est ça qu'on nous invite à observer, sans tirer de conclusion. C'est-à-dire, on n'analyse pas, on fait simplement observer. On observe simplement, on examine. Cette conscience non-née, non-née parce qu'on est incapable de lui trouver un début, une fin. Un peu comme si on regardait une rivière. C'est un flot ininterrompu. Ce qu'on appelle la rivière, voilà, on la désigne comme étant quelque chose, mais il n'y a pas de début à la rivière, il n'y a pas de fin à la rivière, il n'y a pas de... Dès qu'on l'isole, dès qu'on fait un arrêt sur image, c'est déjà autre chose. Voilà, c'est cette idée-là, de regarder ce flux ininterrompu. Et de voir que c'est de là que tout part. C'est de là qu'on se raconte toute une histoire, c'est là qu'on en fait tout un plat. Et donc là, on apprend à ne pas en faire tout un plat. Quelles que soient les pensées qui arrivent. Et c'est pour ça que bah ouais, pendant la méditation, j'insistais sur le fait qu'on doit être doux avec nous-mêmes. C'est vrai que la méthode, elle est stricte. Voilà, on reste en posture de méditation, avec le dos droit. On observe la respiration. Donc il y a une méthode précise, mais elle est déjà suffisamment stricte comme ça. C'est-à-dire, dans cette discipline-là, on peut se balader. Voilà, on nous dit, observer les pensées. Quand il y a une pensée qui émerge, on la laisse passer. Quand il y a une tension qui émerge, on apprend à se détendre. Quand il y a un gros truc qui apparaît, on apprend à se détendre. Et même si on arrive à lâcher, ben voilà, il peut y avoir encore de l'anxiété qui est là, ou un truc pas bon, etc. Là aussi, on apprend à se détendre. C'est-à-dire, on apprend à être OK, à dire c'est OK. Il y a ça qui est OK, il y a ça qui apparaît, c'est OK. Il y a peu de pensées, c'est calme, c'est OK. Il y a beaucoup de pensées, c'est OK. Il y a de l'anxiété, c'est OK. C'est vraiment ça l'apprentissage de la détente. C'est pour ça qu'on dit, c'est apprendre à être doux envers nous-mêmes. Douceur, compassion, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire apprendre à ne pas avoir d'exigence par rapport à nous. À être complètement OK avec ça. Complètement OK avec ce qui nous traverse. Apprendre à s'accepter tel quel, accepter notre esprit tel quel. Malgré même voilà, les instructions qui sont précises, si on n'y arrive pas, et ben là aussi c'est la méditation de dire c'est OK. La pensée qui dit j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je m'ennuie, c'est OK. J'ai encore des tensions dans mon esprit, c'est OK. Il y a encore beaucoup d'agitation, c'est OK. C'est vraiment ça la méditation, c'est on va toujours plus loin dans le OK. Et ça va être ça la découverte de la compassion, c'est-à-dire on est très bon pour être dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Mais oui, accepte-toi tel que tu es, te mets pas trop la pression, etc. On est capable de le dire aux autres, mais est-ce qu'on est capable de le dire à soi? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est vraiment issu d'une véritable douceur qu'on est capable d'appliquer à nous-mêmes avant de parler de compassion envers les autres? C'est pour ça, voilà, on dit souvent... avant d'être compatissant envers les autres, apprendre à être compatissant envers soi-même, parce que sinon c'est une blague de dire ça. Mais non, mais sois doux avec toi-même, accepte-toi, tu es bien tel que tu es, alors qu'avec nous on est j'arrive pas, je suis anxieux, c'est pas pour moi, et on prétend être compatissant, mais en fait c'est un concept là, on est dans un stéréotype de la compassion si on n'est pas capable d'avoir cette détente, justement cette douceur avec nous-mêmes. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans la discipline. le c'est ok, qui va aller toujours plus loin, qui va sentir, qui va détecter la tension, qui va se cacher, qui va traduire une exigence qu'on a envers nous-mêmes, peut-être de je veux plus avoir de pensée, ou je voudrais que ma méditation se passe comme ça, ou j'y arrive pas, ou alors, eh ben c'est ok. Au moment où on dit c'est ok, il y a de l'espace. Le c'est ok, ça veut dire espace. C'est je vois le truc et je laisse ça être avec de l'espace, plutôt que d'essayer d'intervenir sur cette chose-là qui m'est cramponnée. C'est ça qui nous introduit à la bodhicitta ultime, cette notion d'espace. Et cet aspect d'espace est toujours là. C'est un aspect de l'esprit qui est tout le temps là, qui ne nous quittera jamais. Simplement, on apprend à... Disons, on en acquiert la conviction. Et par la conviction, eh ben, la discipline, c'est de l'activer. C'est-à-dire, c'est de s'en servir. Je sais qu'il y a de l'espace. Un mouvement d'esprit qui va me faire le retrouver quand la situation devient claustrophobique. C'est vraiment une question de claustrophobie qu'on va voir en méditation, qu'on va voir dans la vie, mais quand la situation devient trop solide et quand on sent cet aspect claustrophobe, et bien avec la pratique de la bodhicitta ultime, c'est de savoir, même si ça paraît très très intense, qu'il y a toujours de l'espace. Il y en a toujours. C'est un aspect de l'esprit. Et donc, voilà, on examine voilà, toutes ces pensées, la conscience non-née, ce flot ininterrompu. Et voilà, d'où part tout ça? Ce à partir quoi tout part? Et puis on voit qu'en fait, c'est sans fond. Les bulles, on ne leur voit pas de racines particulières. On cherche d'où elles viennent, puis on se rend compte que c'est impossible, que c'est sans fond. Et on fait une découverte voilà, de cet espace. Ça naît à partir de rien. Et du coup, ce qui pourrait se passer dans l'esprit, c'est « Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris la vacuité. J'ai compris... Donc, en fait, tout se vaut. » On pourrait dire « Oui, toute chose est semblable au rêve. Finalement, tout se vaut. On peut... méditer, on peut assassiner quelqu'un, on peut créer une œuvre d'art, finalement tout ça c'est vide, tout ça n'a pas de réalité substantielle, tout ça. » Et en fait dans cette approche ça peut être très louche, ce genre d'approche, ça peut être très suspect. Pour désamorcer ça, le troisième slogan c'est « Laisse les antidotes se dissiper », je crois que c'est comme ça que c'est dit. C'est des drôles de termes, hein, mais... C'est pour ça qu'on a besoin de commentaires. Laisse les antidotes s'auto-libérer et libère-toi des découvertes de la méditation. C'est-à-dire, il naît des pensées, et parfois il naît des pensées fulgurantes. On a tout compris. On s'ouvre à quelque chose d'extrêmement profond, peut-être. Ah oui, toute chose est comme un rêve. Ah oui, on peut se détendre. Ah oui, tout est vide, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça un antidote. Cette pensée-là peut être utilisée comme un antidote à tout. Ça y est, j'ai compris, donc voilà. Je vais utiliser cette compréhension comme une sorte d'antidote à tout. Un prétendu antidote, en fait. Là, l'invitation, c'est que si ça naît, c'est de le voir à ce moment-là, continuer notre exercice, le voir comme une pensée. De voir que, là encore, ce n'est qu'une pensée, sans fondement. C'est juste une apparition. Une apparition qui dit « j'ai compris ». Une apparition qui dit « je prétends avoir compris que toute chose est comme un rêve ». Ou une apparition qui se traduit par une idée géniale. Là aussi, l'invitation, c'est « on continue ». On va toujours plus loin dans la vie. C'est ok. C'est juste une apparition. On ne saisit pas ça. Et donc, on laisse les antidotes s'auto-libérer. C'est-à-dire, par le fait de se détendre, et bien, comme toute autre pensée, comme toute autre bulle d'eau, voilà, ça monte, ça prend cette apparition et pouf, on n'en fait pas toute une histoire. Idem pour les scénarios d'une grosse noirceur, voilà, une grosse anxiété, etc. C'est pareil. Voilà. On fait pareil. Et libère-toi des découvertes de la méditation. Voilà. Parce que toute découverte de la méditation va se traduire par une solidification mentale. J'ai compris, c'est ça, c'est comme ça, la vacuité, c'est comme ça, etc. Ok. C'est un prétendu antidote. On ne s'en sert pas. On laisse les choses dans ce qu'elles sont. Apparition, disparition. Voilà, c'est un petit avertissement, on va dire. Ensuite, le slogan suivant, c'est demeure dans la nature de l'alaya. Ok, on a compris qu'on peut se détendre, qu'il y a de l'espace. Demeure dans la nature de l'alaya, c'est voilà, c'est vraiment. Du coup, rester dans cette simplicité. Dans la perception de ce flot, mais en arrière-plan de ce flot. Il y a un flot et on reste dans arrière-plan, si vous voulez, ou une expérience fondamentale, c'est-à-dire la nature de l'alaya, quand on parle de l'alaya, c'est comme une sorte de terrain fondamental, un ce à partir de quoi tout apparaît. C'est-à-dire, s'il y a tristesse, que je suis conscient de la tristesse, avant même, on va dire, avant même qu'il y ait conscience de la tristesse, c'est comme si on allait encore en arrière de ça, que c'était antérieur à ça, avant même qu'il y ait discrimination. Avant même qu'il y ait discrimination, c'est à droite, c'est à gauche, c'est en haut, c'est en bas, c'est ce qui est conscient de ce qui est. Alors, à formuler, c'est un peu.
C'est un peu la toile de fond des pensées.
Ouais, toile de fond. Ouais, toile de fond, arrière-plan.
Fondement, le socle.
Ouais, socle. Alors, oui, base, fondement. Mais quand on parle de base, fondement, etc., il faut pas se faire laisser piéger par les mots qui pourraient traduire que c'est quelque chose. Il faut en aller à l'expérience elle-même. Une expérience de totale simplicité, c'est-à-dire une expérience de totale immédiateté, tout simple. Être. Donc cette conscience immédiate qui justement dans laquelle il y a ces simplicités, c'est vraiment le point zéro, et il n'y a pas de discrimination. C'est avant la discrimination, c'est antérieur à la discrimination. C'est ceci, c'est cela, j'aime pas, droite, gauche, haut, bas, avant même de nommer les choses, c'est. Et on en reste, l'idée de la méditation en fait, c'est d'arriver à rester, à demeurer dans ce qu'on appelle la nature de l'alaya. Comment c'est dit ? Demeure dans la nature de l'alaya. L'alaya est le présent immédiat. Nous n'avons pas l'habitude de nous maintenir dans le présent. Mais il n'y a nulle part ailleurs où demeurer. Le passé est parti et le futur n'est pas encore là. C'est aussi simple que ça. Seul le moment présent existe. Le présent ne peut pas être contrôlé. Si nous retenons ce moment, il devient le passé. Si nous essayons de le faire durer, nous l'envoyons dans le futur. Dans le bouddhisme zen, il y a un dicton qui dit « Quand vous mangez, quand vous dormez. Demeurer dans le moment présent nous procure de l'espace et de la liberté. » L'exercice de la méditation de la bodhicitta ultime est entièrement consacré à se maintenir dans le présent parce que nous vivons très souvent dans le passé ou le futur. Toutes les méthodes de méditation ont le même objectif, nous maintenir dans le présent et nous introduire à l'esprit. Nous n'essayons pas d'arrêter nos pensées, mais de nous sentir moins piégés par elles. Plutôt, nous arrivons à saisir le moment où nous allons retomber dans nos schémas habituels et nous y empêtrer, mieux c'est. Et la conscience de la respiration est l'une des techniques les plus fiables pour prévenir cela. Et ensuite, il développe la méthode formelle de la méditation, le support de la respiration, la posture, etc. Mais voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On observe les pensées, semblables à un rêve, comme des bulles d'eau. Ça apparaît, ça disparaît. Ça raconte plein de choses, c'est très vif, c'est très net, mais au fond, c'est très... Il n'y a aucune solidité, aucune substantialité. On examine ensuite le processus, qu'on appelle la conscience non-née, de voir qu'elles n'ont... que si on cherche à leur trouver un début, un milieu, une fin, on voit que c'est... on n'y arrive pas. Et du coup, ça nous permet de voir qu'elles sont sans fondement. Et on reste dans cette reconnaissance-là. Alors on reste simplement dans donc ce qu'on appelle la nature de l'alaya. C'est-à-dire un état antérieur à la discrimination, à la... de toute simplicité, de toute présence pure. Et enfin, le dernier slogan, il s'agit en fait l'intégration dans la vie quotidienne, dans l'état post-méditatif. Dans la post-méditation, vois tout comme une illusion. Il y a un maître qui a traduit cette phrase comme « Dans la post-méditation, soyez enfant de l'illusion ». Je vous parle de cette traduction parce qu'elle est considérée comme excellente. C'est une traduction qui vient de Shogyam Trungpa. Elle dit, et c'est vrai qu'elle est très très profonde. C'est difficile justement à expliquer. La façon dont elle est formulée est un peu bizarre. Dans la post-méditation, soyez enfant de l'illusion. Là, ce qui est dit, en fait, c'est que... on a vu dans la méditation assise que tout est semblable au rêve, qu'il n'y a pas lieu d'en faire tout un plat. Et en même temps, tout en voyant que les choses sont semblables au rêve, il n'est pas à conclure que rien n'existe. Donc rien n'existe, donc je fais ce que je veux, donc une sorte de je m'en foutiste, qui serait une compréhension très naïve de ce que c'est. Mais par contre, on voit que toute chose se laisse travailler, donc toute chose n'est pas aussi solide, donc on peut se permettre d'expérimenter toute chose du coup. C'est ça qui est très puissant, c'est que s'il n'y a pas lieu de s'agripper à certaines expériences, coûte que coûte, s'il n'y a pas lieu de se mettre à l'abri, coûte que coûte, de certaines expériences, là l'invitation à faire, c'est que même si ça paraît très vif, très intense, c'est un peu l'idée d'y plonger. Mais d'y plonger un peu comme... sans a priori, un peu comme un enfant qui est prêt à tout expérimenter, tout se goûte. Tout peut être expérimental, parce qu'au fond, on comprend qu'on n'est pas menaçable. Notre nature n'est pas profondément menacée, où il n'y a rien qui va nous manquer. On peut se permettre à s'ouvrir, à une expérience beaucoup plus vaste. Être enfant de l'illusion. Tout est une illusion. Mais une illusion qui apparaît, qui est très nette, on garde le sens de l'émerveillement des enfants. Quand on se libère, justement, quand on apprend à se détendre, on se libère des espoirs, on se libère de la peur, alors tout peut être matière à être goûté. Les expériences agréables, mais aussi les expériences moins confortables, les endroits où on s'interdisait d'aller, situations où on s'interdit d'avancer, où on se défend, ça peut s'expérimenter à 100% avec le regard d'un enfant. Parce que c'est un rêve au fond. Et que si il nous arrivait de prendre conscience qu'on est en train de rêver, ça changerait beaucoup de choses. C'est un peu pour ça qu'on parle beaucoup de l'image du rêve, c'est que supposons qu'en plein rêve, on se dise, on ait l'intuition qu'au bout du compte, on est au fond de notre lit. Bah, du coup, la perception du rêve changerait. C'est-à-dire les apparences qu'on peut-être pourrait continuer d'être là, mais notre façon de les appréhender, bah, il y aurait quelque chose qui se détend. Et même si on joue le scénario d'être au bord d'une falaise, ou de tomber dans le vide, si on sait qu'au bout du compte, on est au fond de notre lit, peut-être on pourrait être curieux de savoir qu'est-ce qui se passe après. Si on est poursuivi par un monstre poilu dans un couloir, bah du coup, prendre conscience qu'on risque rien, bah ça, peut-être ça nous inviterait à voir la suite et qu'est-ce qui se passerait. Et on regarde. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Dans la pratique de la bodhicitta ultime, en fait, l'expérience qu'on peut faire, c'est que parfois même, on peut avoir l'impression d'être déstabilisé ou de chuter. Mais en même temps, avec la bodhicitta ultime, on se rend compte que bah, finalement, il n'y a pas de fond. On peut chuter, il n'y a pas de fond, donc il n'y a pas tant à s'inquiéter de l'atterrissage. Alors on commence à regarder la chute elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, bah, s'il n'y a pas de fond, bah, c'est un peu ça. Et donc du coup, bah, l'attention sur laquelle on se porte change. Et on va peut-être trouver même un intérêt à se voir chuter. À voir la chute elle-même, à regarder la chute elle-même. C'est des images. Hein. Je sais pas ce que ça renvoie, mais c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et surtout, voilà, c'est d'acquérir cette confiance, cette vue, cette réalisation qu'il y a toujours de l'espace, tout le temps. Il n'y a aucune solidité. Les choses n'ont aucune solidité. Et c'est à partir de cette compréhension-là qu'on pourra voir donc, la prochaine fois ce qu'on appelle le Tonglen. C'est-à-dire tout toute la portée de l'entraînement de l'esprit qui invite à faire feu de tout bois. Toute expérience peut être considérée comme un tremplin vers l'éveil. Tout peut être matière à travailler sur son esprit. Tout peut être matière, il n'y a aucun obstacle, y compris les expériences de souffrance, y compris ce qu'on suppose comme être obstacle, ce qu'on suppose que, voilà, toutes les expériences pénibles, défavorables. Dans le Tonglen, l'idée c'est qu'on peut faire feu de tout bois. Tout est bon pour l'éveil. C'est ça l'idée. Et on va utiliser même la souffrance, ça va même être au cœur, les situations adverses comme moyen de s'éveiller. Mais on ne sera pas capable de le faire s'il n'y a pas d'espace, si on voit que tout ça, ça se travaille, si on ne peut pas jouer avec ça. Si on ne comprend pas ça, en fait, on va vivre l'entraînement de l'esprit comme un martyr. C'est-à-dire, oui, je prends sur moi la souffrance, parce que c'est dit comme ça, parce qu'il faut le faire, je prends sur moi la souffrance, et donc je deviens quelqu'un qui subit la situation sous prétexte que bah voilà, c'est bien, j'accepte. Mais en fait, on se résigne et il n'y a pas d'espace, en fait. On devient victime. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de l'entraînement de l'esprit. L'entraînement de l'esprit, c'est une compréhension que la souffrance n'est pas un obstacle. Les difficultés ne sont pas des obstacles, à aucun moment, s'il y a une vue correcte. Si on voit que, si on touche à cet aspect d'ouverture de l'esprit. Du coup, on peut jouer, entre guillemets. On peut regarder, sous plein d'angles différents. Oui, ça m'apparaît comme ça, mais si je me tourne comme ça, ça apparaît de notre angle, etc. Donc en fait, tout n'est pas aussi solide. Donc, du coup, on peut jouer. Donc voilà, au mois de décembre, on verra cette méditation qu'on appelle le Tonglen, dont vous avez peut-être entendu parler, voilà, qui est une méditation très simple, très puissante, très utilisée dans le bouddhisme pour transformer l'adversité en moyen d'éveil. c'est une pratique de guérison. Et effectivement, on l'utilise pour les autres, pour guérir les autres, mais c'est surtout et avant tout une pratique de guérison pour soi. C'est-à-dire, si on arrive à se guérir, nous, bah, par voie de, par répercussion, ça guérit les autres. Il s'agit de guérir notre rapport erroné à la réalité. Tongland, ça te dit quelque chose, Karine? Parce que
là, je n'ai entendu pas.
Tongland, ouais, c'est donc la pratique de prendre et prendre et donner. Tongland, prendre, donner. On verra le propos. Et après on s'arrêtera, je pense. En fait, je pense qu'on s'arrêtera sur l'entraînement de l'esprit au mois de décembre. On va parler du Tonglen et on va pas parler de tous les préceptes après, qui sont quelque part une déclinaison de tout ça. Si on comprend la logique de l'entraînement de l'esprit, on comprendra les préceptes, ils sont très bien expliqués dans les commentaires, les innombrables commentaires qu'il y a de l'entraînement de l'esprit. On l'étudie souvent dans certains week-ends à Luce. On invite souvent des maîtres pour enseigner par rapport à ça. Et puis je vous invite voilà, à recevoir les instructions des maîtres, peut-être des choses plus détaillées. Mais je pense que dans le cadre des Chöling, c'est pas la peine qu'on entre plus loin dans décortiquer, etc. Après, on fait aussi, voilà, cette année, l'année suivante, à Luce, on fait des week-ends, Lojong, où là, on passe en revue tous les préceptes. Commentaire rapide, mais vous allez voir que si vous comprenez la logique du Tonglen, de l'entraînement de l'esprit, ça n'est qu'une déclinaison. C'est juste des rappels. On les décline dans plein de situations, et c'est facile à comprendre. Ça va? Voilà, bah, on peut s'arrêter là pour ce soir. Et puis à vous, hein, si vous avez des questions par rapport à ça. Dans les chuddings, maintenant j'introduis la blagounette du mois. Mais j'ai oublié de la préparer là pour l'instant.
Oh, c'est dommage.
C'est pas grave si je vous fais celle du mois dernier. À moins que je l'ai déjà raconté. Ah, si j'ai déjà raconté, je vais avoir l'air bête quoi.
On s'en souvient pas.
Et là, Denis, ouais. Il se marre, quoi, il est là. C'est un... C'est un jeu... oui, voilà, c'est un garçon qui dit à son papy « Papy, je suis vraiment admiratif parce que à chaque fois que tu parles de mamie, quand tu parles d'elle, tu dis « Ah, j'ai déjà raconté. »
Oui.
Non, j'en ai une autre. Oh, le bide.
Mais elle était bonne aussi, tu ne la connaisses pas, je pense.
Non, une autre. Faut renouveler, là, faut renouveler. Que ce soit frais. ces trois moines qui ont fait un vœu strict de silence. Voilà. Et je crois qu'ils l'ont pris pour plusieurs années de strict de silence. Qui commence, quoi. Ils s'assoient tous les trois. Puis le premier commence à dire oh, c'est quand même bien le silence. Puis il se dit oh, t'as brisé ton silence. Puis le troisième, je ferai remarquer que moi j'ai encore rien dit. Tadam, tadam. Voilà. Donc si vous voulez la blagounette du mois prochain, bah, revenez. Je vous donne rendez-vous en décembre.
D'accord. On reviendra.
On reviendra. C'est génial.
C'est vendeur, ouais.
Ouais, l'enseignement, j'ai pas. Par contre, la blague est à la fin. Rien compris, non, mais. On fait la dédicace. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci. Merci.